Une nouvelle série sur Joseph. Donc Joseph, c'est pas le Joseph du Nouveau Testament, c'est le fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Donc c'est le après Abraham, il y a Isaac, après Isaac, il y a Joseph. Non, il y a Jacob, après Jacob, il y a Joseph. Personne ne m'a repris. Hein. donc voilà, en gros, on va faire une série qui va nous amener de Genèse 37 à Genèse 50. Alors, dans ce premier épisode, la série s'intitule déjà, pour info, le Dieu qui change, qui peut changer le mal en bien. Alors, juste quelques mots, le bien dont il est question ici, ce n'est pas avant tout mon confort, ce n'est pas avant tout ma réussite, c'est pas ce bien-là dont il est question ici, c'est pas des biens matériels, avant tout, on va le voir, on répondra à quoi correspond ce bien-là. L'histoire que nous allons étudier ce soir nous plonge au cœur d'une famille, et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une famille à qui Dieu a fait une promesse bien précise, la famille d'Abraham. Dieu a promis à cette famille que toutes les nations de la terre seront bénies à travers elle. Dieu leur a promis un pays, et c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'en plus des promesses, Dieu leur a promis quelque chose qu'ils sont sur le point quelque chose qui est sur le point de se réaliser. Une prophétie, quoi. Il leur a dit qu'avant de prendre possession de ce pays promis, les descendants seraient étrangers dans un autre pays, c'est-à-dire qui sera l'Égypte, et ses descendants seront esclaves. Donc Dieu a prédit que son peuple sera dans un autre pays, sera en Égypte, et ils y seront esclaves. Et c'est énorme. Imaginez un instant que le Dieu de l'univers vous fait une promesse ce soir. Ce serait génial. On pourrait tous dire tout va changer, tout sera magnifique. Vous êtes une source de bénédiction pour d'autres. Vous aurez une terre, c'est-à-dire des biens. Et vous pouvez connaître en avance les malheurs qui vont vous toucher. En sorte que vous serez capable quelque part d'anticiper, enfin de vous y préparer en tout cas. Hélas, l'histoire que nous allons parcourir ce soir nous présente une famille où tout ne se passe pas comme cela devrait. Une famille dysfonctionnelle, une famille divisée, où le manque d'amour est présent. Il m'énerve. À chaque fois, il prend mes vêtements et il ne les range pas. Franchement, si vous n'étiez pas là, j'allais le défoncer. Je ne sais pas pour vous, mais entre frères et sœurs, des fois, il y a des tensions, et ces tensions-là provoquent de la haine, des fois, qui découle, colère ou de la haine. Mais c'est aussi une famille où il y a de l'injustice. C'est pas juste. Lui, vous lui achetez un iPhone, et moi, de simples baskets, et vous osez dire que vous m'aimez. Ça vous parle, ça? Favoritisme, jalousie. Finalement, une famille normale, une famille comme la nôtre, en tout cas comme la mienne, je ne sais pas pour vous. Oui, on peut réaffirmer, Dieu a fait une promesse. Oui, mais oui aussi, dans cette famille, malheureusement, tout va mal. Et la situation va devenir tragique. Jusqu'où ? Eh bien, jusqu'à en arriver au meurtre. Et au final, toute la famille sera meurtrie, sera dans le deuil. Alors, comment ? Comment Dieu peut changer le mal en bien dans cette famille où tout va mal? C'est ce que nous allons voir, ce que nous allons découvrir maintenant. Mais avant, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse découvrir cette histoire ensemble.
Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit « Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem ? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit « Me voici. » Israël lui dit « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda « Que cherches-tu ? » Joseph répondit « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore « Ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un ancien du Pharaon, qui était chef des gardes.
Comment Dieu peut changer le mal en bien quand tout va mal dans la famille ? C'est le thème de la soirée. Et ce texte, par ce texte ici qu'on vient de lire, Dieu nous dit que même au sein des relations fraternelles tragiques, Dieu est souverain et nous devons l'honorer par notre obéissance et notre confiance. Même au sein des situations qui sont difficiles, des situations où on vit un rejet, on vit un favoritisme, Dieu, lui, il est souverain sur ces situations-là et il nous appelle à lui obéir et à lui faire confiance. Alors, du coup, tout l'enjeu, c'est comment honorer Dieu par notre obéissance et notre confiance dans ce texte. L'histoire de Joseph nous donne deux moyens. Le premier moyen consiste à mettre à mort tôt le péché par notre obéissance. C'est le premier moyen, mettre à mort tôt le péché, sans attendre. John Owen, qui est un puritain, il y a une phrase qui marque, il dit, c'est que c'est soit vous allez mettre à mort le péché dans votre vie, ou alors c'est le péché qui vous tuera. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous serez en train de mettre à mort le péché sous toutes ses formes, ou alors c'est l'inverse qui se produira. Voilà pour le premier point qu'on va voir. Et juste pour info, le deuxième moyen que Dieu nous donne, c'est Dieu nous appelle à reconnaître sa souveraineté dans ce texte et à l'adorer malgré tout. Dieu nous appelle à reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est celui qui est au contrôle de cette situation, et il nous appelle à lui faire confiance au travers des différentes situations, différents événements qui se produisent dans ce texte. Alors du coup, sans attendre, le premier moyen, sans attendre, mettons à mort le péché par notre obéissance. Comment mettre à mort ce péché? Ce texte nous dit de ne surtout pas imiter Jacob et ses frères. Le texte ici nous donne ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne devons pas imiter Jacob et ses frères. Ce qui est profondément triste dans ce texte, c'est que personne ne réalise ce qui se passe vraiment. Dans ce texte, le péché a la forme d'un rouleau compresseur qui emporte Jacob et ses fils sans leur donner la possibilité de faire marche arrière. C'est un peu comme une pluie torrentielle qui emporte tout sur son passage, voiture compris. Et ce qui est, si on n'identifie pas le péché, quelque part, on se laisse emporter par celui-ci. Et les conséquences sont vraiment tragiques. Dans ce récit, on en arrive à la mort. On arrive à planifier la mort de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un qui nous est cher, de notre frère. Vous allez peut-être me dire que ça vous est jamais arrivé. J'ai une question pour vous. Qui a déjà volé un bœuf? Personne. J'ose espérer que personne ne répondrait oui. Mais il y a un adage qui dit « Qui vole un œuf, volera un bœuf. » Qui vole un œuf, volera un bœuf. Ici, Dieu nous demande d'être attentif à la voie sur laquelle nous sommes en train de marcher. Soyons attentifs à nos pensées, à nos actes. Ok, tu n'as jamais volé un bœuf, c'est très bien. Mais ce n'est pas la question. Je suis sûr que tu as déjà eu de la haine pour des personnes de ton entourage proche, comme c'est le cas dans l'histoire de Joseph. Tu as déjà eu de la haine pour ces personnes-là. Ou tu as probablement déjà accordé un privilège à une personne et dénigré d'autres. Vous savez, au lycée, on a toujours des clans. Voilà, moi je suis dans ce groupe-là, on est les meilleurs, et vous êtes dans l'autre groupe. Tu n'as jamais volé, mais attention à là où tu es maintenant, là, aujourd'hui. Sur quelle route tu es et quelle est la destination de cette route-là? Où est-ce que tu vas? Il y a un bouquin de Ed Lambert qui parle de la pornographie. Dedans, en fait, il donne un peu l'histoire d'un homme qui, petit à petit, au travers de ses pensées que ça commence, il va en arriver jusqu'à être addict à la pornographie et toute sa famille sera détruite derrière. Ok, t'es pas dans ce cas-là. Mais est-ce que tu vois le chemin, est-ce que tu vois le processus qui est enclenché? Est-ce qu'aujourd'hui, tu agis face à ce processus-là qui est là, en fait? Dieu nous demande de mettre à mort le péché. Et de mettre à mort le péché tôt, dès la première fois que ça apparaît. Et ça commence dans nos pensées, avant de se traduire en acte. Examinons les deux situations du texte. Alors, Jacob est inconscient des conséquences de son favoritisme. Le verset nous dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit un habit de plusieurs couleurs. » Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux et tous se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. La tunique de Joseph crée une certaine hiérarchie sociale. Joseph, quand Jacob lui offre cette tunique-là, Jacob est en train de dire à tous ses frères, Joseph sera votre chef. Il n'y a rien de mal à offrir une tunique à quelqu'un. Ce n'est pas ça ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce que ça produit derrière? Quelles sont les intentions en amont de cet acte? Il aurait pu offrir la même tunique à quelqu'un d'autre. Donc, au-delà de la tunique, il y a tout un contexte qui fait ça, qui amène à ce rejet-là. Et du coup, si on essaie de creuser un peu plus loin, on découvre qu'il y a beaucoup de choses derrière cette attitude. Il y a une influence familiale qui perdure. Jacob, c'est le fils de Ésaü. Non, qu'est-ce que je raconte ? Jacob et Ésaü sont les fils d'Isaac. Et en fait, Jacob, il reproduit exactement la même chose que son papa. Isaac préférait Ésaü. Pour Isaac, Ésaü était son préféré, clairement. Et pour Rebecca, la maman de Jacob, Jacob était son préféré. Dans cette famille, il y a d'emblée, de base, à l'origine, déjà des prédispositions au favoritisme. Et qui se traduit par des actes concrets. Donc vous imaginez bien que ce n'était pas caché, que c'était clair pour tout le monde. Jacob va essayer de voler le droit d'aînesse de son frère. Il va le faire. Il va voler le droit d'aînesse d'Ésaü. Donc du favoritisme qui est familial, clairement. Et qui perdure. Voilà une influence vis-à-vis de laquelle, enfin une influence clairement qui peut expliquer ce qui se passe pour Jacob. Mais en fait, cette hiérarchie sociale, elle est encore plus frappante quelques versets plus tôt. Quand on lit ce texte, on a l'impression que tout commence là. Mais en fait, non, tout commence bien avant. Si vous revenez quelques chapitres avant, ce qui se passe, c'est que donc Jacob va tromper Isaac et va prendre le droit d'aînesse, la bénédiction de son père, et il va se barrer, il va partir à loin. Ésaü sera en rogne, il sera fâché contre son frère. Jacob va partir chez Laban. Là-bas, il va avoir une première femme, Léa, ensuite Rachel, et ensuite deux concubines qui sont Bila et Zilpa. Et au bout d'un moment donné, une fois que Joseph va naître, quelque temps après, il va partir de chez Laban. Et en fait, sur la route, il va être confronté à Ésaü, son frère. Souvenir. Il va se rappeler de ce qu'il avait fait. Et Ésaü viendra à sa rencontre à lui. Comment réagir? Qu'est-ce qu'il fera? Dans Genèse 33, donc quatre chapitres juste avant, face à Ésaü, écoutez ce que la Bible nous dit. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü accompagné de 100 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants. Les servantes, c'est qui? C'est Bila et Zilpa. Il place en avant du cortège Zilpa et Bila. Ensuite, il place Léa avec ses enfants. Et ensuite, en dernier, il place Rachel et Jacob. En gros, les servantes, vous serez en premier, donc il y a quelque chose qui se passe, c'est vous qui allez prendre. Ensuite, Léa, et en dernier, Rachel. Le favoritisme dans cette histoire ne commence pas au chapitre 37, il est bien avant. Et comme on le voit, il est lié à la famille. Alors, en quoi ce récit nous concerne? Comment tu réagis quand, finalement, on t'élève et que tu bénéficies d'une distinction, d'un privilège? Comment tu réagis? Est-ce que tu dénigres les autres? Je me souviens quand on était au lycée et qu'on avait une bonne note, le prof disait « Ouais, trop bien, t'as une très bonne note et tout. » Je te sentais pousser des ailes. Et des fois, malheureusement, dans notre tête, en tout cas dans la mienne à ce moment-là, ouais, je m'imaginais meilleur que les autres. Ce n'est peut-être pas ton cas. Plusieurs parmi nous sont célibataires. Est-ce que le fait d'être en couple est pour toi une source d'un privilège pour te faire valoir toi. Dans le sens où tu aspires à cela pour toi, en fait, pour te faire valoir, pour quelque part, comme Jacob, enfin Joseph, le montrer et tirer quelque chose de ça. Ou inversement, comment est-ce que tu exprimes ton amour? Comment tu exprimes ton amour dans tes relations? Comment tu exprimes ton amour dans ton entourage proche? Est-ce que ton amour discrimine d'autres? Est-ce que ton amour dévalorise d'autres? Ou est-ce que tu es juste dans ta manière d'aimer ceux qui sont autour de toi? Dieu nous interpelle par ce texte de ne pas faire comme Jacob. Parce qu'il y a des conséquences qui sont réelles. Il y a des personnes qui souffrent de cela. Il y en a qui l'ont vécu et qui souffrent par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle nous, Dieu nous appelle à ne pas agir de la sorte. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Le texte de ce soir nous parle d'une famille. Il s'agit de la famille d'Abraham, de Jacob. Mais il s'agit aussi d'un peuple. Il s'agit du peuple de Dieu que Dieu est en train de construire. Et aujourd'hui, ce peuple-là, c'est les croyants qui ont cru au travers de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que toutes les nations sont bénies. Donc Dieu nous appelle, nous aussi, à ne pas agir de la sorte. Et pour ça, il faut qu'on puisse identifier ces choses-là. Il faut qu'on identifie, qu'on soit conscient qu'on fait preuve de favoritisme. On peut jeter la pierre à Jacob, mais je ne suis pas sûr qu'on ne tomberait pas dans la même situation que lui. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Je pense que Dieu nous donne au moins deux éléments. La première, c'est sa parole qui nous éclaire, qui pointe du doigt, qui montre le péché, qui montre ce que Dieu réprime. Et donc, un encouragement à garder nos yeux, comme on le fait ce soir, à plonger nos yeux dans sa parole. Pas juste pour acquérir des connaissances, mais pour que Dieu incline notre cœur à l'obéissance. Il ne s'agit pas d'avoir un moult connaissances. Dieu attend de nous qu'on puisse l'obéir avant tout. Mais je pense aussi que le fait qu'on soit un peuple, qu'on soit là ce soir, fait aussi que nous sommes les uns les autres redevables, où on peut s'encourager à marcher comme Dieu veut, où on peut s'encourager à mieux faire, où on peut s'encourager à faire comme la parole fait. Désolé de le dire, mais on ne peut pas être, toléré de voir quelque part un favoritisme et ne rien dire, ne rien faire. C'est notre rôle, quelque part, de nous aider mutuellement en nous encourageant et peut-être en nous disant là peut-être que ça aurait été différent, t'aurais pu faire différemment. Si personne ne vous fait des retours, vous ne progresserez pas. Si personne ne vous dit dans votre vie, il y a tel aspect, si vous ne donnez pas cette possibilité-là à des gens autour de vous, ça sera comme c'est le cas pour Jacob. Les frères de Joseph maintenant. Les frères de Joseph, eux non plus, ne réalisent pas leur haine et ses conséquences. Est-ce qu'ils ont tort, finalement, dans cette histoire? Ils n'ont rien demandé. Leur père a offert un habit et de là découle cette haine-là. Est-ce que pour autant, ils sont innocents? Est-ce que pour autant ils sont innocents? La réponse est clairement non. C'est pas parce que tu n'es pas coupable que tu es innocent pour autant. Vous savez, une histoire simple, c'est quand deux enfants se disputent, il y en a un qui fait un tort, l'autre qui rend le tort en disant c'est lui qui a commencé. Sous prétexte que, comme je ne suis pas coupable, moi, j'ai le droit de agir en conséquence, de le frapper. Je suis innocent, j'ai rien fait. C'est lui qui a commencé. Donc je suis dans mon droit de le frapper. Et en fait, papa, c'est lui qui a commencé. C'est exactement comme ça se passe dans les familles, sauf l'absent. En tout cas, la mienne, je ne sais pas pour vous. Il est où le problème ? Le problème, c'est que quelque part, on alimente ces mauvais désirs, on alimente ce péché, on alimente ces actes. Et en fait, le péché ne fait que s'amplifier dans cette situation-là. Jésus a été rejeté par ses frères. Jésus a été rejeté par ses disciples. Il le savait. Mais il agit différemment. Il agit différemment. Et par son œuvre, il a agi en sorte de transformer la vie de ses disciples, la vie de ses disciples, pour que ses disciples-là puissent vraiment l'aimer. En ce moment, je vis une situation un peu difficile au boulot, où c'est un peu tendu sur... je vais pas vous donner forcément les détails, mais en gros, je suis victime d'un tort où j'ai rien fait par rapport à ça. Je me suis marié il y a quelques temps et on m'a reproché de ne pas avoir invité... Enfin, une personne m'a reproché de ne pas l'avoir invité à mon mariage. Elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie trahie par moi, elle se sentait proche de moi. Je lui ai dit, je suis désolé, je m'excuse, je ne voulais pas te faire du mal, je ne voulais pas te faire du tort. Le truc, c'est que cette situation a pas mal affecté notre relation, au point que elle me montre, cette personne, qu'elle n'est pas... que notre relation a changé, quoi, que c'est plus du tout la même chose. Il y a une distance qu'elle met, qu'elle installe. Et c'est pas facile à vivre. Est-ce que je suis coupable dans cette situation ? J'ai pas l'impression. Mais, devant Dieu, je suis quand même coupable. Je suis coupable parce que, suite à ces attitudes, moi, dans mon cœur, j'ai nourri des pensées d'amertume. Dans mon cœur, j'ai nourri de l'égoïsme. Dans mon cœur, j'ai manqué d'amour pour cette personne-là. Peut-être que j'ai rien fait en acte, mais là-dedans, j'ai mal agi. Et Dieu a pointé ça du doigt dans ma vie pendant que je préparais ce texte sur Joseph, et il m'a invité à confesser. À confesser ces pensées que j'ai eues qui ne l'honoraient pas. Et plus important encore, à manifester l'amour de façon concrète. À manifester de l'amour pour ces personnes qui me rejettent. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que Jésus agit. Nous sommes des disciples, nous sommes des chrétiens. Nous suivons Jésus. Nous sommes des disciples de Christ. Et Christ nous invite, nous appelle de le suivre, de l'imiter. Et le but de Dieu, c'est de nous rendre conformes à l'image du Christ. Et ça touche clairement la manière dont on agit dans notre entourage. Comment est-ce qu'on réagit au rejet qu'on peut vivre ? Comment faire ? Eh bien, Dieu nous appelle à lui obéir malgré tout, malgré toute la souffrance qu'on peut vivre. Dieu nous appelle à l'obéir. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que ça l'est. Mais ce que je dis, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et que Dieu peut nous donner les moyens pour y arriver. Parce que dans le fond, ça travaille notre cœur, ça travaille notre caractère, ça nous travaille nous-mêmes. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu nous rend conformes à l'image de Christ. John Stott, dans un bouquin qu'on a lu là pour le groupe de formation, a dit une phrase, une citation que j'aimerais vous lire. Il dit « Semer pour la chair, c'est s'y soumettre, la dorloter, la câliner, la caresser. Par contre, la crucifier, c'est tout le contraire. Chaque fois que nous nous permettons de nourrir une rancune, d'entretenir un grief ou de nous plonger dans des rêvasseries malsaines, de nous apitoyer sur nous-mêmes, nous s'aimons pour la chair. Chaque fois que nous traînons en compagnie d'individus qui exercent sur nous une mauvaise influence à laquelle nous savons que nous ne pouvons pas résister, chaque fois que nous restons alités alors que nous devrions être en train de prier, chaque fois que nous regardons de la pornographie, chaque fois que nous faisons quelque chose qui exige le maximum de notre maîtrise de soi, nous semons pour la chair. Il y a des croyants qui s'aiment quotidiennement pour la chair et qui se demandent pourquoi ils ne récoltent pas la sainteté. Guillotine. Guillotine, une pensée nous arrive dans la tête, et bien comme la guillotine, on tranche de suite. On ne laisse pas perdurer parce qu'elle va s'installer et au final on va tomber. On n'est pas meilleur que Jacob, on n'est pas meilleur que ses frères. Regardons notre propre cœur et cherchons à honorer Dieu. Mettons à mort le péché. Voilà pour ce premier point. Mais dans ce texte, Dieu nous donne un deuxième moyen pour l'honorer, pour mettre à mort justement ce croire en sa souveraineté. Et le deuxième moyen pour vaincre le mal par le bien, c'est d'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance que Dieu est souverain malgré tout ce qui peut se passer. Les événements du récit de ce texte concourent tous vers le projet de Dieu. Comme on a pu le voir, d'un côté, on a les hommes qui planifient plein de choses. De l'autre, on a Dieu. Et son plan à lui est celui qui se réalise au final. Le plan de Dieu est celui qui se réalise au final. La souveraineté de Dieu, c'est le fait qu'il contrôle toute chose, qu'il est au-dessus de tout, qu'il sait tout. Ici, Joseph est choisi. Il n'est pas choisi en fonction de ses capacités, de ses réussites, de ses échecs. Le texte ne nous dit rien. Le texte nous dit juste « Dieu a choisi Joseph ». Et en cela, Dieu est souverain dans le choix qu'il fait. Dieu est souverain. Son choix est indépendant des réussites ou des échecs, on le voit dans cette histoire. Il y a d'autres événements aussi. Le meurtre qui est prémédité n'a pas lieu. Le meurtre n'a pas lieu par des concours de circonstances. Déjà, à la base, ils sont à Sichem. Les frères de Joseph sont à Sichem, Jacob les envoie à Sichem. Mais Joseph ne les trouve pas à Sichem, Joseph les trouve à Dothan. C'est un peu plus loin. Ce qui est remarquable, c'est que Dothan, c'était un peu une route pour les grandes caravanes. En gros, si les frères de Joseph étaient restés à Sichem, il n'y aurait pas eu la sortie caravane. Parce que les caravanes ne passaient pas à Sichem, les caravanes passaient uniquement à Dothan. C'est là où il y avait des marchands qui descendaient, en fait, du pays d'Abraham jusqu'en Égypte. Concours de circonstances. Est-ce que c'est un hasard? Bien sûr que non. C'est précisément à Dothan que Dieu agit, que Dieu se révèle. Et ce qui est marrant, c'est que les hommes ont l'impression d'être au contrôle de la situation. Les hommes ont l'impression de gérer les choses. Mais c'est là où la grandeur de Dieu éclate, où elle m'éblouit, c'est que malgré nos plans, malgré nos réflexions, malgré tout ce qu'on peut planifier, eh bien, c'est le projet de Dieu qui se réalise. Dothan n'est pas là dans ce texte par hasard. Dothan est précisément là pour nous dire que Dieu était au contrôle de cette situation-là. À la fin, où est-ce que Joseph atterrit? Joseph est pris et vendu aux Ismaélites. Ensuite, derrière, on le revend en Égypte à Potiphar. Coïncidence? Non. Là également, Dieu nous montre comment il est souverain au travers de tout ce récit-là. Le rejet de début, la haine, l'envie de meurtre et finalement la vente en tant qu'esclave. Joseph est vendu à Potiphar. Qui est Potiphar ? Potiphar, c'est un employé de Pharaon. Et Joseph, plus tard, il ira chez Potiphar. On le verra dans la suite, si vous venez. Il ira chez Potiphar, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, il va se retrouver en prison. La prison, et pas n'importe quelle prison, il va se retrouver dans une prison qui était destinée aux prisonniers du roi. Il aurait pu atterrir dans n'importe quelle autre prison, mais il va se retrouver chez Potiphar et dans la prison des rois, des prisonniers du roi plutôt. Et c'est de là qu'il va devenir prince d'Égypte. Tout est conduit. Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. Et ça me pousse à l'adoration, ça me pousse à dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et je suis qu'un homme. Et ça me pousse à avoir confiance en Dieu, en dépit des situations difficiles qu'on peut vivre, du rejet qu'on peut vivre. Dieu est souverain même dans ma souffrance. Joseph est clairement rejeté par ses frères. Mais ce qui est frappant, c'est que même quand il se sent rejeté par ses frères, Joseph reste obéissant. Même quand il se sent rejeté par ses frères, Joseph continue à obéir à son père. Son père lui dit, Joseph, viens, je vais t'envoyer chez tes frères à Sichem. Joseph va dire, me voici. Le texte nous dit, me voici. Il est prompt à obéir. Il est prompt à honorer son père. Et donc, il honore Dieu en conséquence. Et il va arriver à Sichem, ses frères ne seront pas là. Il ne va pas se dire, je ne les ai pas trouvés, je fais demi-tour. Non. Il va aller au bout de sa mission. Il va pleinement obéir. Même s'il souffre. Même s'il sait que ses frères le rejettent. Même s'il sait que ses frères ne peuvent pas lui parler de façon mauvaise. Joseph continue à obéir. Et Joseph ici pointe clairement à Jésus aussi. C'est une image de Christ. Joseph est quelque part le produit imparfait et Jésus sera le produit final qui lui va être rejeté par l'humanité entière. Mais qui là aussi va continuer à obéir en allant à la croix, à la mort, à la croix. Et un dernier aspect de la souveraineté de Dieu, c'est que dire que Dieu est souverain, c'est reconnaître qu'on n'a pas, qu'on ne pourra pas tout savoir. Je ne pourrai pas tout savoir. Tu ne pourras pas tout savoir. Personne ne sait ici, finalement, quand aura lieu l'accomplissement des rêves de Joseph. Personne ne le sait. Dieu n'intervient pas pour dire à Jacob, « Jacob, c'est un mensonge, ce que tu vis. » Pendant plus de 15 ans, quasiment une vingtaine d'années, Jacob va vivre comme si son fils était mort. Il y a un vrai meurtre dans cette histoire. Pour Jacob, c'est un vrai meurtre. Et Dieu n'intervient pas pour dire à Jacob, « En fait, non. » C'est peut-être instructif pour nous. Mais Dieu attend de Jacob qui continue à l'obéir, qui continue à l'honorer malgré tout. La fin de ce texte est synonyme de mort. La fin de ce texte est synonyme de... Enfin, c'est la fin. Pour les frères de Joseph, ça y est, on s'est débarrassé de Joseph. Pour son père, Joseph est mort. Contrairement au plan des hommes, cette fin est un succès, est une victoire pour Dieu. Parce que Dieu accomplit son plan au final. Et c'est pareil, à la croix, Jésus est mort. À la croix, les disciples se sont dit, c'est fini pour nous. Ça y est, tout s'arrête. Mais cette défaite pour les hommes était une victoire pour Dieu. Parce que Jésus triomphe de la mort. Et c'est notre espérance ultime à chacun d'entre nous ici ce soir. Croire en la souveraineté de Dieu, c'est croire à ce Dieu qui ressuscite les morts. Pour conclure, Ce texte nous montre que même au cœur des relations difficiles, Dieu est souverain et qu'il nous appelle à l'honorer par notre confiance et notre obéissance. Et cela implique deux choses. Mettons à mort le péché sous toutes ses formes et mettons-le très tôt, sans attendre. Si on ne fait rien, comme on l'a vu, nos mauvais désirs ainsi que les actes qui en découlent ne feront que s'amplifier. Honorant donc Dieu en nous détournant du péché maintenant. Deuxième élément, avec confiance, adorons le Dieu souverain malgré tout. Parce que par ce récit, Dieu veut qu'on se souvienne qu'il est souverain, que sa volonté, son plan sont au-dessus de ceux des hommes. Honorant Dieu en plaçant notre confiance en lui. Aujourd'hui, là, maintenant, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, qui est vérité et qui nous parle encore aujourd'hui. Plusieurs siècles après. Et Seigneur, on ne peut pas changer, on a besoin de toi. Et je te prie que tu produises en nous ce changement que tu veux. Face au favoritisme, Seigneur, au rejet, on réagit mal en général, moi le premier. Et je te prie que tu nous donnes de refléter Jésus, de faire comme toi, Seigneur, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous maltraitent et de te faire confiance. Même dans des situations qui peuvent être difficiles. C'est le cas pour plusieurs parmi nous dans l'Église qui vivent des situations difficiles, Seigneur, mais qui malgré tout témoignent par leur foi de ta fidélité et par leur persévérance aussi. Je te remercie pour ces modèles qui sont pour nous. Aide-nous, nous aussi, à te suivre en tout temps. Pour ta gloire. Amen.